OK, si vous voulez vous joindre à moi, on va aller dans Genèse chapitre 43. On va lire tout le chapitre. Genèse chapitre 43. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère? » Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous et nos enfants. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, et des amandes. Prenez avec vous de l'autre l'argent et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'autre l'argent, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ses gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent, remis autrefois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres, puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté de l'autre argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau. Ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs âmes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vînt à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, « Votre vieux père, dont vous m'aviez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. » Il vit encore. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, lui dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune, selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Alors, on va, je vais vous asseoir, on va regarder un petit peu les principales leçons que le Seigneur veut nous enseigner dans ce passage-là. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, tout simplement, « La grâce de Dieu manifestée par sa providence ». On va voir la grâce de Dieu, une grâce, c'est quelque chose qui nous est donné qu'on ne mérite pas. Quelque chose qui nous est donné alors qu'on mériterait le contraire. Alors, la grâce de Dieu qui va se manifester. Manifester, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre visible, rendre observable, rendre que tout le monde s'en rend compte. Donc, la grâce de Dieu manifestée, comment? Par sa providence. Et la providence, je le répète, on l'a dit au cours des semaines précédentes, la providence, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les circonstances que Dieu envoie dans nos vies. Le chapitre 43 de la Genèse est particulièrement riche pour nous montrer comment Dieu agit par sa providence. C'est très facile de lire ce chapitre-là et de voir uniquement l'histoire de Joseph, de Jacob, de ses 10 frères. On voit ça comme une histoire. Et c'est vrai, et le Seigneur l'a mis là, mais la raison pour laquelle on lit chapitre 43, c'est que le Seigneur veut nous montrer des choses sur lui-même et sur comment il corrige les défauts de ses enfants et comment il manifeste sa grâce. Donc, la dernière partie, quand il est Joseph, il ne faut pas oublier une chose, Joseph était rendu le premier ministre de l'Égypte, qui à l'époque était une puissance très grande. Alors, il était rendu premier ministre, imaginez-vous, vous vous ramassez à la table du premier ministre. C'est une grâce. Dieu permet que les frères de Joseph, ils ne méritaient pas d'être emmenés là. Ils ne méritaient pas ça du tout. Ils méritaient plutôt d'autres choses. Mais c'est de voir, on va voir à l'intérieur du texte comment le Seigneur est tendre dans sa manière de corriger les défauts. Parce que les 10 frères, là, ils avaient fait quelque chose de grave, là. Ils avaient pris le frère, puis ils l'avaient vendu. Imaginez-vous si vous auriez quelqu'un dans votre famille qui vous aurait vendu pour devenir un esclave. Auriez-vous un petit peu de difficulté si vous tomberiez en pouvoir à leur montrer? Ah oui, regardons ça. Vous m'avez vendu, le temps d'années. L'heure de la vengeance est arrivée. N'est-ce pas qu'on serait porté à agir comme ça? Et on voit ici le caractère de Joseph que Dieu a transformé et qui est capable, le jeu qu'il joue avec ses frères, de mettre l'argent dans le sac et tout ça, ça n'a pas pour but de jouer avec eux autres. Ça a pour but de les amener tranquillement, graduellement, à prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Donc, dans le chapitre 42, il y avait déjà un petit peu de ça de fait. Dans le chapitre 43, il en a encore plus. Et Dieu est tellement habile en se servant de Joseph pour amener ses frères à reconnaître leur culpabilité et la gravité de leur faute. Et là-dedans, il faut retenir surtout que Dieu agit de la même manière avec nous. Dieu est délicat dans sa manière de nous emmener nos péchés, à les voir. Parce qu'ici, Joseph aurait pu être très bête avec ses frères. Ah oui? Regardons ça. On rencontre des vieux ennemis. Ils nous ont fait des troubles. Sacrez-moi tout ça en prison, ça gagne-là. Il aurait pu même les faire zigouiller, les faire tuer. On voit que le caractère de Joseph, Dieu se sert de Joseph pour montrer à ses frères la gravité du péché et les amener à reconnaître leur culpabilité. Ça va se faire graduellement. Chapitre 42, 43, 44. De voir comment Dieu agit là-dedans, là, c'est un émerveillement. C'est ça l'adoration. C'est de regarder ce matin, dans un chapitre, comment Dieu agit et de voir que ça nous émerveille. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'émerveiller dans ce chapitre-là, de voir comment Dieu agit et comment... Et, alors... On a vu, dans le chapitre 42, on a vu ça un petit peu la semaine dernière, des fois, en lisant les Écritures trop rapidement, et en ayant oublié qu'est-ce que Dieu a déjà promis avant, on manque des choses vraiment très belles. Une des choses, Dieu a fait une promesse dans Genèse 3:15, dès la chute. Il y a eu la chute. Ève a mangé le fruit, Adam a mangé lui aussi, ça les a fait tomber dans le péché avec les conséquences tellement graves que même l'esprit le plus éveillé sur la gravité de la faute comprend pas vraiment toute l'ampleur que c'était pour amener dans l'humanité au cours des siècles. Alors, il a fait une promesse qu'il enverrait le Messie. Et ici, on a un problème majeur, parce que le peuple d'Israël était pour connaître une période de famine qui durerait 7 ans. Si Joseph n'aurait pas été premier ministre de l'Égypte, et si Dieu ne lui avait pas fait voir par des rêves qu'il y aurait 7 ans de famine suivis de 7 ans d'une grande abondance, et de ramasser le blé, ben pensez-vous qu'il y avait des chances que la promesse d'envoyer un Messie par l'intermédiaire de la lignée de Jacob soit compromise, soit en danger? Ben oui. Et là, on voit comment Dieu agit, se sert des circonstances pour leur rappeler que mes promesses, même si ils ont été faites il y a longtemps, étaient faites à Abraham. Il y a eu son fils Isaac. On est rendu à Jacob. On est rendu même à d'autres fils. La lignée messianique a pris du temps avant d'arriver. Là. Mais Dieu, là, la promesse qu'il a faite là, même si ça prend 2000 ans, il ne voit pas le temps comme nous. Pour lui, il accomplit sa promesse. Et si on lit le chapitre et qu'on ne se souvient pas que dans le fond, Dieu a fait une promesse et qu'ici, la promesse était menacée, on manque quelque chose d'important. Et il y a d'autres choses aussi. Alors, dans chapitre 3, versets 15 et 16, on les relit parce que c'est important de voir comment Dieu réalise cette promesse-là d'envoyer le Messie à travers Genèse 3, 15 et 16. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. » Et toi, tu la blesseras talon. Il est en train de parler que le Messie va venir, ça va être le Messie qui va écraser la tête du serpent. Et alors, on voit comment la continuité, Dieu a une continuité dans sa pensée, dans ses promesses. Et il y avait d'autres choses aussi que Dieu avait dit à Abraham, et on l'oublie. C'est ça qui nous fait manquer des choses importantes dans le chapitre. Mais une autre chose importante, c'est que Dieu avait fait Abraham dans Genèse 15. Là, on recule loin, Genèse 3, on ne se souvient pas de tout ça. On l'a déjà oublié, on est juste rendu à 43, puis on a déjà oublié. Chapitre 15, il avait fait une autre promesse à Abraham. C'est-à-dire, il avait dit, l'Éternel dit à Abraham, il ne portait pas encore le nom d'Abraham dans le temps, son nom n'a pas été changé, Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité, c'est quoi ça? Les enfants de ses enfants, puis des enfants. que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Quand Dieu fait une promesse, là, Dieu voit l'avenir. Abraham, il ne savait pas qu'il était pour aller, toute sa descendance était pour aller vivre 400 ans en Égypte. Dieu le savait. Mais voyez-vous comment Dieu agit pour amener tranquillement la nation d'Israël à sortir de Canaan et à s'en aller en Égypte, parce qu'il avait dit qu'il irait en Égypte. Il dit, ils l'opprimeront pendant 400 ans, mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront servis, et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. N'oublions pas ces deux promesses-là. Dieu a promis que le Messie arriverait, donc il fallait que la nation d'Israël périsse pas dans la famine, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et il fallait aussi que le peuple d'Israël finisse par sortir de Canaan pour s'en aller en Égypte, parce qu'il avait dit qu'il restait là pendant 400 ans, puis qu'il serait exploité, puis qu'il serait opprimé, mais qu'il ferait sortir. Alors, quand on regarde la manière de Dieu d'agir, il s'est servi du péché des 10 frères de Joseph. Joseph a vendu, ses frères ont vendu Joseph, il est devenu esclave en Égypte, et c'est à cause de cela que le peuple d'Israël, Canaan, va être sauvé à cause que Dieu a permis que les péchés des autres finissent par être une bénédiction pour le peuple d'Israël. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire que la manière dont Dieu travaille. Il se sert même du péché pour amener des bénédictions sur son peuple. C'est extraordinaire. Moi, c'est vraiment extraordinaire. Alors, l'utilisation du péché des frères de Joseph, de l'avoir vendu aux Ismaélites, ça préparait quelqu'un pour un rôle extrêmement important que Dieu lui donnerait de jouer. Tomber en charge de la distribution de la nourriture pendant une période de 7 ans où tout le monde manquerait, l'Égypte complète manquerait de nourriture. Et non seulement l'Égypte, parce qu'on voit dans le texte que il y avait tellement de blé qu'ils ont été capables d'en donner à ceux qui n'avaient des pays alentour. Et Dieu a permis que celui qui soit en charge de distribuer toute cette nourriture-là soit un homme que Dieu avait préparé, parce que Joseph a été préparé durant toute cette année-là. Il a été en prison, il a fait des interprétations de rêves, et Dieu a permis qu'à cause de ça, Pharaon dise, cet homme-là, t'es tellement sage qu'on va te mettre en charge durant ces 14 années, pendant les 7 ans de grosse abondance, tu vas ramasser, tu vas mettre du blé dans des greniers, puis durant les 7 autres années, on va avoir de quoi nourrir le peuple égyptien et les nations alentour. Et Dieu permet que c'est Joseph, celui qui a été vendu, qui soit rendu là. Ça, on ne voit pas la sagesse de Dieu là-dessus, on manque le bateau. Là. Dieu est sage, d'une grande sagesse. Alors, il se sert, il a préparé Joseph à assumer ce rôle-là très important. Si Joseph aurait été un genre revanchard, il voudrait faire sa revanche. Imaginez-vous, tu es rendu premier ministre d'un pays extrêmement important, puis le pharaon lui avait donné carte blanche. Il n'avait pas besoin d'aller demander à pharaon, est-ce que je peux tuer ces gars-là? Est-ce que je peux les martyriser? Est-ce que je peux les sacrer une volée pour se venger de ce qu'il lui avait fait? Le caractère de Joseph a été formé par Dieu durant toutes les années avant qu'il puisse accéder à ce poste-là. La sagesse de Dieu. Parce que Joseph, il voit ses frères et il comprend que sa famille, son père est encore vivant et il est sage maintenant. Il est capable de regarder cela et de ne pas se dire « Ah, maintenant, voilà mon temps est arrivé. Vous allez goûter maintenant, mes amis. » Mais non. Et Dieu a permis que sa promotion sociale, qu'il soit préparé dans son caractère, dans ses expériences qu'il a vécues, qu'il est capable de gérer tout ça. Mais c'est de voir la main de Dieu, la main providentielle de Dieu dans tous ces événements-là. Et on a la clé, quand on lit l'histoire de Joseph, on a la clé de compréhension qui nous est donnée au chapitre 45. On va la lire parce qu'elle est importante de la comprendre. Parce que chapitre 45, les versets 1 à 8. Chapitre 45, versets 1 à 8. Alors, on arrive au moment, dans le chapitre 45, où Joseph se manifeste à ses frères et il s'identifie. « C'est moi, Joseph, que vous avez vendu en Égypte. » Et là, il s'identifie à eux, dans le chapitre 45. « Alors, Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents. Et il cria, « Faites sortir tout le monde, et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. » Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Imaginez-vous, vous êtes troublés pas à peu près. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez donc de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Mettez-vous dans la peau de ses frères, là. Et ça va faire bobo en dedans. Hein? Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas, et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être mené ici. » Regardez la phrase, la version, c'est tellement beau, t'as pleuré. « Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Votre péché sert à votre délivrance. À votre... Il dit, verset 6, « Car voici 2 ans que la famine est sur la terre, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. » Mais verset 7, encore une fois, ramène Dieu dans l'équation. « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » La clé est là. Dieu s'est servi de tous ces événements-là, du péché des frères, de tout le temps de formation que Joseph a eu, du fait que Pharaon le nomme à un poste hyper important à l'époque, pour sauver la nation d'Israël et pour sauver les frères eux-mêmes. Les pécheurs qui ont fait ce péché d'une grande gravité, eux-mêmes sont sauvés à cause que Dieu, Joseph reconnaît, verset 5, « Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous, du verset 7, « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » C'est assez extraordinaire, hein? De voir la main providentielle de Dieu dans la vie du peuple d'Israël, dans la vie de Jacob, dans la vie de Joseph, dans la vie des frères de Joseph. Mais si on reste là, on manque le bateau. Parce que qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu nous dit que tous les livres de l'Ancien Testament nous ont été donnés pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors Dieu veut nous montrer qu'il agit de la même manière dans nos vies à nous. Il est délicat dans notre manière de nous emmener à voir notre péché. Et il mène les circonstances de manière à notre bien ultime, c'est Romains 8, 28. Et si on ne voit pas ça dans le texte, on manque vraiment le bateau. On manque vraiment le bateau. Alors, on va regarder maintenant une idée importante des versets, les 14 premiers versets. C'est surtout l'idée que la providence gracieuse de Dieu se continue dans le temps. Parce qu'on a vu la semaine dernière, dans le chapitre 42, ça avait commencé. Il était venu chez du blé, il lui avait donné du blé, il avait mis l'argent dans leur sac, il était retourné, puis quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte qu'il y avait le blé. Mais Dieu commençait déjà à leur enseigner des choses, commençait déjà à vouloir les préparer pour qu'un jour ils soient capables de reconnaître leur culpabilité. Moi, il y a une chose que je lis dans le texte qui est important parce que c'est dans le texte, mais c'est aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Dans Philippiens 1, verset 6. C'est l'idée que Dieu continue toujours ce qu'il a commencé. Et ça, c'est tellement rassurant pour nous. Ça dit, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est-tu rassurant de savoir ça? Dieu a commencé une œuvre en nous et il va la continuer jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout de l'aventure. Si c'est pas rassurant ça, je me demande que ça nous prend. Alors, il y a encore pénurie dans le chapitre. Autrement dit, ils ont eu du blé, ils sont retournés chez eux, mais là, ils ont tout mangé qu'est-ce qu'il y avait. Et là, ils sont rendus au point où il faut qu'ils retournent. La pénurie, la famine était grande dans le pays. Il est en train de demander à ses fils, « Mais qu'est-ce que vous attendez pour y retourner? » Et là, Judas, il dit, « Ben, papa, on n'est pas pour aller là. » Parce que Joseph, il nous a bien avertis, là. Si vous ne revenez pas avec votre frère, votre autre frère qui est là, Siméon, qui avait été gardé comme prisonnier, il va rester là. Et vous autres, vous n'aurez plus de nourriture. Je ne vous en donnerai pas. Mais quand tu n'as plus rien à manger, là, pour nous autres, c'est difficile à comprendre parce qu'aujourd'hui, les magasins sont tellement bondés de nourriture. On ne sait même pas c'est quoi banquer de nourriture. On ne sait même pas c'est quoi. Mais quand tu commences à avoir plus rien dans le frigidaire, puis qu'il n'y a plus rien à l'épicerie, là, tu commences à réfléchir un petit peu. Oh, si j'ai rien, là, je vais crever, là, parce que ben, c'est bien beau. Là. Moi, j'ai des réserves un peu. Peut-être que je pourrais toffer 15 jours, 3 semaines, un mois, même peut-être. Mais au bout d'un mois, quand je serai rendu bien maigre au point qu'il n'y a plus de réserve, là, il faut que tu mettes de la nourriture dans ta bouche, sinon tu crèves. Alors, la famine était grande dans le pays de Canaan et il fallait qu'il dise à ses fils, retournez là-bas en chercher de la nourriture parce qu'on va crever. Et là, Judas lui dit, papa, on ne peut pas aller là si on ne ramène pas Benjamin. Puis on sait que Jacob, il ne voulait pas l'envoyer, son Benjamin, il ne voulait pas parce qu'il avait peur qu'il lui arrive la même chose qui est arrivée à Joseph. Alors, c'est vraiment la continuation. Et on a ici une plaidoirie dans le verset 3 à 10. On a la plaidoirie de Judas. Et c'est intéressant, des fois, on ne se pose même pas la question. On lit le texte, on ne se pose pas la question. Pourquoi c'est Judas qui plaide à son père? Et non pas le plus vieux, Ruben. Ruben était le plus vieux. Mais il semble que Dieu élimine Ruben et son autre frère, le deuxième, et il prend le troisième. Mais il y a une raison pour ça. On va lire un petit peu les qualités de Judas. Judas ne s'est pas joint à ses frères Siméon et Lévi pour venger la trahison, l'outrage fait à Dina. Vous vous souvenez-vous de cette histoire-là? Dina, leur sœur, avait été... Bon, et ces deux-là, Siméon et Lévi, ne s'étaient pas joints, Ruben, Siméon, Lévi. Il ne s'était pas joint à l'outrage. Judas a aussi sauvé la vie à Joseph en proposant à ses frères de le vendre au lieu de le tuer. Si vous vous retournez dans l'histoire, c'est Judas qui a dit, « Hey, tuons-les pas, c'est notre frère. Vendons-le à la place. » Alors, il avait quand même sauvé la vie à son frère. Autre chose, c'est que Judas... un petit peu plus loin dans Genèse 44, on va voir que Judas va prononcer un discours très émouvant quand Benjamin va se faire découvrir qu'il aurait supposément volé la coupe. Et Judas va se rendre compte de ça et il va plaider devant Joseph. Alors, c'est un plaideur. C'est une personne qui est capable de plaider l'innocence. Et alors, c'est un plaideur. Pourquoi que c'est lui qui intercède? Très, très important. Alors, ce plaidoyer-là avait été si convaincant que Joseph, sans tarder davantage, révéla son identité. C'est après la plaidoirie de Judas. Bien que Judas ne fût pas l'aîné, pas le plus vieux, c'est lui que Jacob chargea d'aller informer Joseph de sa descente dans le pays de Goshen. On voit que Dieu avait perdu confiance en ses fils Ruben, parce que ça dit qu'il a couché avec une de ses femmes, et Lévi, parce que c'est un violent, et Dieu était rendu. Jacob avait appris à développer sa confiance en son fils Juda. Et c'est très important, Juda, pourquoi? Parce que Jésus est de quelle tribu, de la descendance? De quelle tribu?
De Juda.
Un Juda. Pourquoi c'est Juda? Parce que c'est lui qui était le mieux placé. Alors, à cause de ses graves fautes, Ruben, Siméon et Lévi perdirent le premier rang et Jacob mourant donna à Juda la bénédiction prophétique découlant du droit d'aînesse. On n'ira pas là ce matin, là. Mais c'est très important parce que Dieu se souvient des gestes que ces gens-là ont faits. Puis quand Jacob, sur son lit de mort, va donner les bénédictions prophétiques, les péchés alors, normalement, ça aurait dû être Ruben qui aurait dû être Dieu aurait dû se servir de Ruben pour emmener la lignée messianique, mais il ne se servira pas de Ruben. C'est quand il va faire la prophétie à Juda, qui va lui dire que le Shiloh va venir par lui. Puis le Shiloh, dans les Écritures, c'est le Messie promis. Alors, verset... on voit que Jacob, malgré tout, toutes les expériences qu'il a vécues avec ses fils, a quand même conservé la piété. Donc, il dit, il y a quatre versets qui parlent de quatre choses là-dedans, dans le verset 11 à 14. Il parle de générosité et prudence. Quand il dit, par exemple, « Emmenez ce qu'il y a de meilleur du pays pour faire un cadeau. » Il y a un verset qui nous dit dans Proverbe 21, « Le don fait en secret apaise la colère et le présent mis dans le sein calme la fureur la plus véhémente. » Donc, il y avait assez d'intelligence pour dire... Il ne savait pas si c'était une erreur ou non qu'il avait remis l'argent dans le poche. Il dit, prends le meilleur du pays, faites un cadeau, monsieur. Ça, il résonnait comme un chrétien. Il résonnait comme un croyant. Ensuite, il y a de l'honnêteté. Parce qu'il dit, non seulement prenez l'argent qui vous a été remis, puis là, il dit, peut-être c'est une erreur, puis ramenez encore assez d'argent pour acheter du blé. Donc, le double. Donc, il est un homme honnête. Il est un homme croyant, donc il est honnête. Autre chose, verset 13, la résignation. Quand tu vois que ta famille est sur le bord de crever, puis que toi, tu t'entêtes, tu dis, mon fils Benjamin, il n'ira pas en Égypte. Tu claires ça? Il dit ça à ses enfants. Ses enfants disent, ben là, papa, si on y va pas avec Benjamin, là, on n'aura pas de blé. Il finit par se résigner. Il se résigne pourquoi? Par amour pour ses enfants. Par amour. Alors, peu importe comment on peut s'entêter des fois à quelque chose. C'est la résignation, c'est quand on voit que ça n'a plus de bon sens. Il faut plier. Alors, il est plié dans le verset 13. Et dans le verset 14, quand il leur dit, « Et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. » Il se rend compte que le succès de ce voyage-là dépend de la grâce de Dieu. Et autre chose, pour qu'il vous relâche votre autre frère, et Benjamin, autrement dit, pour que celui qui est là prisonnier puisse revenir, mais que celui que je vous ai confié, lui aussi puisse revenir. Il dit, et s'il faut que je sois privé d'enfant. C'est gros ce qu'il dit là. C'est comme si vous autres avez des enfants, puis vous diriez au Seigneur, ben, si pour sauver ceux qui sont avec moi, s'il faut que je sois privé d'enfants à cause de ça, ben que je sois privé. C'est-tu de la foi, ça? C'est de la foi. Donc, il y a un esprit sacrificiel et un amour familial exceptionnel. Donc, Jacob, malgré tous ses défauts, il a quand même conservé quelque chose d'important dans sa vie. La deuxième chose qu'on va regarder... C'est vraiment la providence gracieuse de Dieu pour convaincre les 10 frères de Joseph qu'ils sont coupables d'un très, très grand péché. Imaginez-vous, ils ont voulu le tuer. Puis si Juda n'aurait pas intervenu, là, il l'aurait tué. Et là, ils ont fait coller au père Puis c'était un animal qu'il avait dévoré, toute cette histoire-là. Mais dans la tête de Jacob, son fils, il est mort. Mm-hmm. Imaginez-vous quand il va le retrouver, les émotions. C'est presque pas croyable d'imaginer ça. Mm-hmm. Alors, leur culpabilité. Donc, dans le verset 15 à 18, ça dit qu'ils ont, repris de l'argent. Et là, ils ont pris Benjamin avec eux autres. Et ils sont arrivés, puis Joseph les a mis. L'intendant de la maison de Joseph, c'était celui qui était en charge de... C'est comme le domestique en charge, l'intendant de la maison. Et là, ils commencent un petit peu à se rendre compte qu'ils sont coupables de quelque chose. Comment ça se fait qu'on a de l'argent dans notre sac, puis qu'on l'avait payé, puis qu'on ne l'a pas volé? Autrement dit, Dieu permet que la petite boîte à poux, elle commence à travailler un petit peu. Pour se rendre compte qu'éventuellement, ils vont avouer. Ils vont se rendre compte qu'est-ce que Dieu nous a fait. Ils vont voir la main de Dieu dans tout ça pour les amener à reconnaître leur culpabilité. Il ne faut pas oublier une chose. Quand ils disent dans le verset 18, « Et ces hommes, voyez-vous, quand tu arrives là-bas, puis ils veulent l'emmener à manger avec Joseph, quand on a une conscience coupable, on imagine toujours le pire. » Ça dit dans le verset 18, « Et ces hommes eurent peur. » C'est les frères de Joseph. « Ah oui, on sait bien. Ils veulent nous emmener manger avec lui. Mais dans le fond, c'est quoi son idée? Il veut nous emprisonner, il veut nous tuer, il veut nous voler nos armes. » C'est ça qu'ils disent. Et ces hommes eurent peur de ce qu'on les menait à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent qui fut remis dans nos sacs la première fois qu'on nous amène. C'est pour se jeter, se précipiter sur nous, et nous prendre pour des esclaves, et se saisir de nos âmes. Une conscience coupable, quand elle reçoit quelque chose d'extraordinaire, est toujours portée à penser quelque chose de négatif. Ah ouais, c'est bien. Ils veulent nous emmener manger chez le premier ministre, c'est parce qu'ils veulent, ils nous veulent du mal. Mm. Voyez-vous comment l'esprit humain travaille? Alors, dans le verset 19 à 22, on a une leçon. Ils commencent à vouloir comprendre que, autrement dit, ils veulent faire de la prévention auprès de l'intendant. Ils veulent lui dire, l'argent là qu'on a trouvé dans nos sacs, là, nous autres, on ne l'a pas volé, on le ramène. Ils commencent à amener un genre d'esprit de confession dans leur esprit. Alors, ils s'approchèrent de l'intendant de la maison, et lui, ils parlèrent à la porte de la maison, et dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres, et lorsque nous arrivâmes à l'hôtellerie, et que nous ouvrîmes nos sacs, voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, nous l'avons rapporté dans nos mains. » Et nous avons apporté d'autres argent à nos mains pour acheter des vivres. Et nous ne savons, voyez-vous, ils commencent à dire la vérité, là. Des menteurs, parce que c'était des menteurs, les frères. Toute la gang, les 10. Et là, on dirait que c'est comme Dieu est en train de leur apprendre qu'il faut qu'ils disent la vérité s'ils veulent s'en sortir. Et ils disent la vérité. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans notre sac. Puis c'est vrai qu'ils ne savaient pas. Alors, les frères de Joseph sont à apprendre des leçons fondamentales de l'honnêteté et de la franchise, mais ils ont de la difficulté à croire qu'ils bénéficient d'une telle bienveillance. Ils s'imaginent être tombés dans un piège, et ils saisissent l'occasion de mettre l'affaire au clair avant d'entrer dans la maison. Donc, le péché non confessé entraîne souvent de la méfiance et de la suspicion. C'est vrai qu'on est de même, hein? Et le verset 23-25, Dieu permet que l'intendant comprenne cette histoire-là, probablement que Joseph lui avait parlé. Et là, l'intendant lui-même va leur dire que c'est la grâce de Dieu. Spécial, hein? Un Égyptien qui va dire aux enfants de Dieu. Et il dit, verset 23, et il dit, « Tout va bien pour vous, ne craignez point, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. » Voyez-vous, ils sont en train de dompter les frères de Joseph par la question de l'argent, parce que c'est l'argent dans leur vie, c'est ça qui a fait qu'ils ont voulu vendre. Alors, Seigneur, ça sert du même moyen. Et il leur, voyez-vous, votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. bonté sur bonté. Non seulement on t'emmène chez le premier ministre, mais ton frère qui est en prison, on le sort, on l'amène avec toi. Et cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, leur donna de l'eau, se lavèrent les pieds. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était marcher dans le désert. Quand tu avais marché longtemps dans le désert, tu avais mal aux pieds. Pour eux autres, c'était un signe de donner de l'eau pour tes pieds. Et ils préparèrent le présent en attendant que Joseph vint à midi, car ils avaient appris qu'ils mangeraient là le midi. Alors l'intendant a certainement appris de Joseph ce qu'il doit répondre, et il les rassure, il les encourage à considérer que le trésor caché dans leur sac, c'est un don de Dieu. Intéressant. L'intendant, il prouve sa bonté par des actes. Il leur amène Siméon, leur donne de l'eau, du fourrage pour leurs animaux, et les attentions des frères d'offrir à Joseph, le premier ministre, ils lui offrent tout ça. Donc, on est rendu au troisième point, celui de la consolation. Verset 16 à 34, on ne lira pas tout le chapitre, là, mais c'est juste de se souvenir des principales affaires. Donc, il y a une consolation pour Joseph qui fait partie d'une prophétie. On se souvient qu'il y avait eu un rêve où il avait dit qu'il viendrait se prosterner devant lui. Regardez bien le verset 26. Joseph revint à la maison, alors ils lui offrirent dans la maison le présent qu'ils avaient en leurs mains, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph devait avoir un petit velours, hein, dedans. Vous l'avez dit, hein? Et il leur demanda comment ils se portaient. Il dit, « Votre vieux père dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? » Il répondit, « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il vit encore. » Et une deuxième fois dans le même passage. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Autrement dit, Joseph est en train d'avoir son moment de gloire. Il lui avait dit ça, il y a bien des années, qu'il viendrait se présenter devant lui, qu'il s'inclinerait, qu'il se prosternerait devant lui. Et on a le moment de la réalisation. À l'intérieur de lui, là, il devait avoir une petite voix qui lui disait « Dieu avait raison. Malgré les difficultés, ça a fini par s'accomplir. » Verset 29 et 30, là, il y a quelque chose qui se passe. Il voit son frère, son jeune frère, probablement qu'il l'avait peu connu ou presque pas connu. Et là, il voit Benjamin, son frère, ça dit le fils de sa mère, donc il était deux enfants de la femme que Jacob aimait. Et là, il dit, voilà mon jeune frère dont vous m'avez parlé. Et il lui dit, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Et Joseph se hâta, car ses entrailles étaient émues pour son frère, et il chercha un lieu pour pleurer. Imaginez. Là, il était comme au comble de l'émotion, il ne pouvait plus se retenir, il fallait qu'il aille se cacher pleurer, parce qu'il aurait demandé, pourquoi tu pleures? Lui, il ne voulait pas le dire. Alors, il est allé se cacher pour pleurer, mais ses émotions étaient à son comble. Alors, Joseph est extrêmement, profondément ému de rencontrer son jeune frère Benjamin, qui est le deuxième fils de sa mère bien-aimée, Rachel, et la femme préférée de son père. Joseph lui parle gentiment et prononce une bénédiction sur lui en lui disant « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Et s'adressant à lui de cette façon, Joseph ne peut plus contenir son émotion. Il sort précipitamment pour pleurer à l'abri des regards. Troisième chose, verset 31-34, la consolation planifiée. Ça, c'est un aspect intéressant. L'histoire de comment sont placés. Quand vous arrivez à quelque part, il y avait trois tables là-dedans. Il y avait comme trois endroits où les gens pouvaient manger. Il y avait la table des dix frères, il y avait la table des Égyptiens, puis il y avait la table du maître. Et là, les frères se rendent compte que l'ordre dans lequel ils sont placés tient compte de l'âge de leur naissance. Et là, ils se regardent. Tu peux me dire comment ça, on est placé de même? Pourquoi? Parce que Joseph, il connaissait les frères. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Mais il y avait quelque chose qui se passait, là. Tu peux me dire, comment ça se fait qu'il sait ça, lui? Puis là, il voyait comment il était placé, et il se disait, il devait se dire quelque part, comment ça qu'il sait ça, lui? Il les place tout dans le bon ordre. Et autre chose qui est là-dedans, ça dit, verset 33, ils s'assirent donc en se présent, l'aîné selon son droit d'aînesse, le plus jeune selon son âge. Donc, il les place par ordre d'âge. Il devait se regarder. Je vais me dire, moi, je suis sûr. Moi, c'est ça qu'ils nous ont blessés comme ça. C'est ça que ça dit. Et ces hommes se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Comprenez-vous? Et il leur fit porter les mets. C'est là qu'on comprend la question des mets de que 5 fois plus à Benjamin qu'à ses frères. Bienvenue, ses frères, par nature, c'était des jaloux. Parce que Joseph était un homme qui était préféré par son père et eux seuls ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas pris au point qu'ils l'ont vendu puis ils voulaient le tuer. Et là, ici, je pense que Joseph est en train de faire un test avec ses frères. On va voir si vous êtes encore jaloux. Si vous êtes capable de gérer la jalousie. Parce que le plus jeune, qui est mon plus frère, là, je vais y en donner 5 fois plus à vous autres qui ont dû le voir. Je vais même dire, comment ça, qu'il donne 5 fois plus à mes amis que nous autres. Mais ça semble pas que ça les a influencés, parce que ça dit, ils burent et firent bonne chère avec lui. Donc, à quelque part, Joseph vient vérifier que la jalousie de ses frères, il semble être corrigé de ça. Ils sont capables de gérer ça. Alors, ils sont flattés d'être assis à la table d'honneur, et Benjamin a droit à des égards particuliers, à cause du fait qu'il reçoit 5 fois plus. Et Joseph cherche visiblement à mettre leur jalousie à l'épreuve. Comment dire, on va regarder si vous êtes encore jaloux comme dans le temps. On va vous en donner 5 fois plus à vos jeunes. On va voir comment vous allez réagir. Puis, il faut croire que ça ne les a pas fait trop réagir, parce qu'ils continuaient d'être heureux à la table. Alors, c'est un grand festin, et tous sont de bonne humeur. Alors, en mettant ses frères à l'épreuve, Joseph manifeste les qualités d'un maître sage qui craint Dieu et agit pour promouvoir la justice, la paix et l'unité au sein de son peuple. Ça vous fait-tu penser à un autre personnage de l'histoire, de la Bible? Je pense que ça l'annonce le caractère aussi de Jésus-Christ dont le règne se caractérise par la vérité, la douceur et la justice. 3 applications et on termine là-dessus. Le Seigneur est souverain et le Maître, il continue une œuvre qui a commencé au début, il va la rendre jusqu'au bout. Et il va continuer sans cesse de réaliser son promesse parce que la promesse d'emmener le Messie n'est pas encore accomplie, là, mais elle est en cheminement de s'accomplir. Alors, honorons le Seigneur en lui faisant pleinement confiance dans la direction de toutes les circonstances de la vie, des églises locales et la vie des individus. Nous, le Père Dieu dirige la vie des églises locales et Dieu dirige la vie des individus qui composent les églises locales. Ça, c'est important de voir la main de Dieu dans tout cela. La deuxième chose, c'est que le Seigneur va travailler constamment dans nos vies pour nous sanctifier, en nous conscientisant de nos péchés, comme il a fait avec les frères de Joseph, et en nous amenant à la confession des péchés et aussi à une repentance authentique. Et la troisième et dernière, rendons grâce à Dieu, pour son œuvre de consolation dans nos vies. Autant les frères de Joseph sont consolés quand ils sont emmenés, et bien traité, hyper bien traité, Dieu aussi, parfois, après des épreuves, nous console, nous aussi. Retenons toutes ces choses-là. 3 versets, je termine là-dessus. Voici, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et la bande. Il blesse et ses mains guérissent. Job 5, versets 17 et 18. Très intéressant. Autrement dit, quand il arrive des choses qui nous font mal dans la vie, c'est Dieu qui permet la blessure et c'est Dieu qui permet la guérison. Deuxième chose, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui est écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et le dernier verset, 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions. On a-tu des afflictions dans la vie? On en a plein. Et le Seigneur nous dit qu'il est celui qui amène les consolations dans nos vies. Afin que, voyez-vous, il y a une raison, c'est ça que ça dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, on va toutes en avoir, ça c'est sûr, puis ils vont nous consoler, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Le but de la consolation, c'est de nous emmener dans un état d'esprit où on est nous-mêmes utilisés par le Seigneur pour consoler quelqu'un d'autre. C'est beau, hein? Je trouve ça très beau. Que notre grand, glorieux et miséricordieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour la sage direction souveraine des circonstances de nos vies. Amen. Amen.